Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Verschin, directrice générale de Bompard, Éric Bompard, spécialiste du cachemire. Et ça tombe bien avec ces frimas presque hivernaux. On voit que beaucoup de consommateurs se tournent vers les doudounes, les maillots de corps pour assumer le fait de baisser la température. Barbara Verschin, est-ce que vous voyez chez Bompard que le consommateur est intéressé par votre produit et vient chercher du cachemire?
Alors très clairement, les habitués sont déjà venus dès le début de la saison parce qu'ils savent que pour avoir les bons coloris, les bonnes tailles, il faut venir tôt. Mais effectivement, vous l'avez vu dans la presse, nous avons fait un clin d'œil à cette actualité, mais pas qu'un clin d'œil parce que notre produit en cachemire est thermorégulateur et qu'effectivement, acheter un produit de qualité qui dure, c'est peut-être le bon moment d'y penser. On a eu, après ce clin d'œil et cette petite campagne que nous avons lancée sur le col roulé, une hausse de 50% de nos ventes de col roulé.
Ah oui,
et nous avions déjà anticipé et élargi l'offre de col et de plastron à rajouter sur votre pull pour transformer un pull col rond ou col V en col roulé facilement. Et s'adapter aussi aux nouvelles mobilités, aux gens qui ont besoin de se couvrir rapidement et de manière pratique.
Et donc ça, il y a un vrai intérêt du consommateur pour ça.
Ah, il y a un vrai intérêt. Les cols, les chaussettes et tout ça s'envolent. Et on voit que voilà, les gens ont pris au sérieux, je pense, les mesures qui ont été demandées. On les a tous prises au sérieux. Et c'est vrai qu'acheter un produit de qualité et qui tient vraiment chaud, c'est important dans ces moments.
Mmh. On va revenir sur Bompard, mais avant, je souhaitais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Vous avez débuté dans le luxe. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes chez Bompard, mais auparavant, vous avez travaillé de longues années dans le luxe chez Vuitton, chez Céline, chez Hermès. Comment vous êtes venu dans ce secteur-là du luxe, du très premium. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce marché-là?
Alors au départ, je suis arrivée convaincue par un grand monsieur qui était Yves Carcel, qui avait des projets ambitieux pour Louis Vuitton, notamment d'ouvrir le premier flagship store sur les Champs-Élysées. Donc ça date pas d'hier, hein, c'est la fin des années 90, avec une nouvelle aventure qui était d'ouvrir ce flagship, première mondiale aussi pour le groupe, d'un magasin d'une telle taille. Il y avait plus de 150 vendeurs à l'époque. Et une excitation à découvrir un nouveau modèle de magasin, évidemment sur la plus belle avenue du monde. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe de management, de vraiment le projet était encore sur plan uniquement, il fallait recruter toutes les équipes, il y avait une excitation, une énergie incroyable, et on a vraiment eu l'impression de faire un truc phénoménal dans cette expérience et dans cette aventure. Donc ça a commencé là. Et avant tout, je pense que je suis arrivée très clairement dans ce secteur par le goût des beaux objets, de l'artisanat, des produits qui durent, du travail de la main. Et je l'ai retrouvé tout le long de mon parcours, donc avec les maisons que vous avez citées.
Vous, le contexte familial, il y avait ce côté artisanat, goût pour les belles choses, ou c'est vous qui l'avez cultivé?
On s'en rend compte que plus tard, mais bien sûr, ce sont des valeurs que mes parents, ma famille m'ont données. Alors j'avais un grand-père horloger quand même, donc qui déjà était pour moi une initiation à la compréhension de ce que les mains et le travail de la main peut faire, et sa magie, le respect aussi de ce travail-là. Et effectivement, dans l'éducation que mes parents m'ont donnée et les activités qu'on faisait, on retrouve tout ça, le goût pour l'ouverture aux autres, la littérature, la musique, mais aussi les beaux objets et l'observation de la nature, beaucoup. Et pour moi, ça compte pour beaucoup dans l'acte créatif, en fait. Les proportions, les couleurs, vous les apprenez aussi dans la nature. Et le respect de la matière naturelle et comment la sublimer.
Et ça, ça a toujours été dans votre vision de faire avancer le produit, la relation avec le client aussi, parce que vous avez une vision à 360 degrés de ces métiers-là. Mais cette notion de cette relation à la nature, cette relation à la matière, ça a toujours été un élément moteur pour vous.
Tout à fait. Pour moi, c'est déjà garder... Comme je dis souvent, je suis une terrienne. Alors non pas une propriétaire terrienne, mais quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a une vraie sensibilité à ce que la terre, la nature nous offre. Et quand on utilise des matières naturelles, notamment, et on le retrouve chez Éric Bompard, la fibre qu'on utilise, c'est une fibre qui a des propriétés qui sont liées purement à la nature et aux écarts de température. C'est un duvet qui protège cette chèvre qui vit dans des conditions extrêmes en Mongolie. Mais on a le devoir, pas de l'exploiter, mais justement de la sublimer, cette matière, d'en tirer le meilleur, de ne pas la gaspiller, et de parler vrai à ses clients aussi en offrant l'authenticité de cette matière. Mais c'était la même chose quand je travaillais, quand je dirigeais les collections maroquinerie chez Hermès. Le cuir, c'est une matière, à l'origine, c'est un déchet de la chaîne alimentaire finalement, mais c'est une matière naturelle qu'il faut, c'est plus que dans l'air du temps cette thématique, mais c'est vrai qu'il faut, préserver comme un bien précieux et dire comment on peut, par l'acte créatif, sublimer la matière et offrir idéalement un objet qui sert.
Je reviens sur votre parcours. Louis Vuitton, d'abord justement sur cette ouverture de flagship. Vous êtes resté combien de temps à la tête du magasin avant d'aller sur d'autres territoires?
Alors, dans le groupe LVMH, la grande force de ce groupe, comme vous savez, leader mondial des maisons de luxe et de mode, l'évolution se fait très vite. Je suis restée 2 ans dans la boutique pour ensuite développer justement l'expansion internationale et les ouvertures partout dans le monde qui ont suivi à l'image, à l'instar de ce flagship. Donc j'ai ensuite rejoint la direction du marketing et évolué dans le groupe pour, toujours dans le groupe, créer la filiale de Céline en Angleterre, qui était l'étape ultime dans mon parcours dans le groupe.
Et moi, la question que je me suis posée en regardant votre itinéraire professionnel, pourquoi vous êtes allé chez McKinsey après ces expériences LVMH? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de rejoindre McKinsey? Donc un grand cabinet de consultants stratégiques.
Alors déjà, je vous parlais de mon éducation, de mes valeurs. J'adore apprendre. On m'a appris cette curiosité de tout et de la curiosité des gens aussi. Et changer d'environnement professionnel, ça en fait partie. Aller dans un cabinet en stratégie, ça vous apprend déjà d'être analytique, ça vous apprend d'être structuré, de structurer votre pensée, la manière de réfléchir, ça vous apprend des méthodes. Et puis j'ai adoré servir et accompagner des équipes, des dirigeants, des grands dirigeants. Ça force l'humilité aussi. Vous êtes là pour les aider dans l'ombre et on apprend énormément au contact des problématiques auxquelles ils sont confrontés et de les aider à ça. Et ça me sert aujourd'hui chez Éric Bompard aussi d'avoir ces référents. Et puis c'est des gens avec qui des belles personnes. Je vous disais, il y a aussi la dimension humaine, des gens avec qui je reste en contact avec grand plaisir.
Est-ce que justement dans ces personnes, il y a des personnes qui ont créé un déclic ou en tout cas qui ont été des vecteurs de votre développement professionnel?
Tout, je dirais depuis que je travaille, mon parcours est émaillé à la fois d'expériences structurantes professionnelles, mais aussi de rencontres. Vraiment, j'ai fait surtout des choix en fait d'équipe et de gens avec qui je voulais travailler. Donc très clairement, pour répondre à votre question, pas seulement chez McKinsey, je suis toujours en contact avec des personnes avec qui j'ai travaillé il y a 35 ans, qui étaient dans mes équipes, avec qui me demandent parfois des conseils aussi. Chez McKinsey, bien sûr, les dirigeants avec lesquels j'ai travaillé, chez Dassault Systèmes, Bernard Charles, dans différentes entreprises avec les, que j'ai accompagnées. Et puis ensuite, donc je vous ai parlé d'Yves Carcel, qui feu Yves Carcel, mais et chez Hermès, Axel Dumas, bien sûr, avec lequel qui m'a beaucoup et soutenu et développé, et avec qui j'ai beaucoup appris, mais pas que la jardinière de la maison Hermès, qui est une femme incroyable, qui est bien plus que tout ce qu'elle apporte déjà à entretenir les jardins de la maison, mais c'est un pilier, c'est une personne qui a beaucoup de la mémoire de la famille et de l'histoire, ou le responsable du conservatoire d'Hermès. Ce sont des gens qui comptent vraiment beaucoup pour moi.
Et pourquoi ? Quel est le rapport particulier ? C'est le pas de côté par rapport au quotidien d'une grosse machine comme Hermès ?
En fait, c'est pas le pas de côté. Moi, je dirais que c'est la compréhension profonde d'une entreprise. Tout le monde compte. Et parfois, on voit pas forcément qu'il y a des gens qui ont engrangé une connaissance qui est nécessaire aussi pour typiquement pour développer des collections maroquinerie, les faire évoluer, écrire les prochains chapitres dans une maison qui a une telle histoire. Il est indispensable d'avoir ses yeux et ses oreilles bien connectés à ceux qui comprennent l'ADN, l'essence de ce qui a fait cette maison. Il y a pas de petites et de grandes gens dans la vie. Tout le monde compte.
Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément les personnes qui sont les mains dans la matière, mais tout l'environnement autour, en fait.
Exactement. La culture d'entreprise, tout ce que tout le monde se transmet. Mmh. Et dans des maisons comme celle-ci, c'est tous ceux qui sont attachés au sens du détail comptent et nourrissent cette culture.
Chez Hermès, justement, vous passez sur la maroquinerie, vous prenez en charge la maroquinerie, et vous êtes plus vraiment sur du marketing, vous entrez vraiment sur la matière là. C'est votre premier poste où vous êtes vraiment au contact d'une matière vivante, en tout cas d'une matière à travailler. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler?
Effectivement, c'est vraiment là que j'ai appris à travailler avec des créatifs. Je vous disais, j'ai une admiration sans borne pour ceux qui créent, qui ont une énergie et une créativité débordante et qui font fuser les idées. Et encore aujourd'hui, j'écoute. C'est les petites fleurs sur lesquelles il faut pas marcher. Il faut les laisser éclore. Donc, quand on travaille avec des équipes créatives, et aujourd'hui Caroline Randolfi et son studio, c'est d'être capable de regarder un dessin, de dialoguer, de ne pas avoir de parti pris, d'essayer l'idée éclore, parce que parfois entre le début de l'idée, l'échange qu'on a eu, et puis l'aboutissement du produit, il faut lui laisser sa chance. Il faut écouter ce que les créatifs ont envie de dire. Et puis leur laisser un espace d'expression. Bien sûr, on raccroche toujours avec des chiffres, parce qu'in fine, on doit quand même pouvoir vendre les produits. Mais je me tends chez Hermès avec les équipes studio qu'aujourd'hui chez Eric Bompard, de laisser cet espace le petit grain de folie, parce que c'est là qu'un créatif peut vous amener à un endroit où vous n'y attendez pas, à découvrir une tendance, à aller un peu plus loin et à pousser la marque.
Donc votre métier, c'est vraiment de jouer sur cette distance entre le très rationnel, les chiffres, et la partie créative, en disant « Ok, on peut aller jusque-là, on se permet de prendre certaines libertés créatives. » C'est vraiment un jeu d'équilibrisme, en fait.
Tout à fait, et de rester en contrôle de la partie, je dirais, plus analytique et plus chiffres, mais sans jamais, jamais polluer les équipes produits et les équipes créatives de ces préoccupations. C'est-à-dire être en pilotage et eux les laisser bien sûr exprimer toute la puissance de ce que leur cerveau est capable de générer comme nouvelles idées.
Vous avez passé quelques temps chez Zadig & Voltaire après Hermès. C'était un contact avec le luxe accessible, le premium. Qu'est-ce qui est différent en fait entre l'univers, l'héritage d'une maison comme Hermès et pour vous en tant que dirigeante de basculer sur cet univers-là que vous retrouvez aussi chez Éric Bompard aujourd'hui?
Alors évidemment, Zadig & Voltaire, c'est différent d'Hermès. Le produit est différent, voilà, la stratégie est différente. Aller dans un univers comme celui de Zadig & Voltaire, déjà, c'était me frotter aussi à l'univers d'un entrepreneur, un fondateur, qui a quand même eu au départ, et ça, c'est pas différent d'Hermès. Au départ, il y a quand même quelqu'un qui a l'idée de monter une entreprise et de la développer, de comprendre. Donc, chez Zadig & Voltaire, je suis rentrée pour développer la stratégie maroquinerie, puisque, ben, vous l'avez dit, vous avez vu mon parcours et c'est une expertise que j'ai développée. Donc, c'était vraiment le point de départ. Et ensuite, les autres compétences que j'ai développées en retail et en développement de marques, accompagner le développement international et ouvrir énormément de boutiques pour Zadig & Voltaire.
Le développement international, justement, c'est une des ambitions d'Éric Bompard aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi, je le disais, que vous êtes à la tête de la société qui appartient toujours au groupe Marco Polo. Est-ce que, comme vous êtes arrivé en plein début de Covid, est-ce que le projet que vous aviez, vous avez pu le mettre en place comme vous le souhaitiez?
Alors, tout à fait. Déjà, vous avez souligné le fait qu'en 2018, la société a été rachetée par la compagnie Marco Polo, mais aussi le fonds d'investissement Apax et la BPI. Et tous trois soutiennent évidemment le projet international. Ils nous accompagnent pour pouvoir faire ce développement. Entre-temps, on a quand même eu 2 ans avec du Covid. Donc, on a maintenu notre réseau existant et focalisé nos développements sur le digital aussi. On a vraiment beaucoup accéléré toute la partie digitale et omnicanal, c'est-à-dire la possibilité de commander autant en ligne, mais de retrouver des liens avec le réseau physique. On a accordé beaucoup d'attention aussi à notre réseau physique en France et dans les 6 pays européens où nous sommes présents. Et aujourd'hui, nous sommes là en plein en cours en fait de développement vers le grand export, les États-Unis, la Corée et à travers la Corée, le Japon et le reste des pays européens. Les points communs qu'il y a entre des marques comme Zadig & Voltaire, Hermès ou ailleurs, c'est aussi avoir développé une connaissance de ses clients internationaux. Alors j'ai une sensibilité plus particulière pour les Japonais parce que je connais le Japon, j'ai étudié au Japon et je connais très bien ses clients aussi et leur culture. Et clairement, Éric Bompard a de quoi faire vibrer bien au-delà de l'Europe. On a déjà des clients, bien sûr, à travers notre site internet à l'international, mais on a un potentiel énorme à aller développer un réseau physique avec des grands magasins ou en propre dans ces pays-là.
Aujourd'hui, en chiffres, moi j'étais resté sur un peu plus de 65 boutiques sur l'ensemble du réseau, environ un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Bompard. Vous, les ambitions, aujourd'hui, vous en êtes où du développement de la marque?
Alors, c'est exactement les bons chiffres. donc, les 65 boutiques sont situées aujourd'hui uniquement en Europe. Donc, je vous disais dans 6 pays européens avec une majorité de boutiques en France, puisque c'est là qu'est née la marque et que le réseau s'est étendu. Mais aujourd'hui, par exemple, nous avons une boutique à Londres sur King's Road. J'étais pas plus tard que la semaine dernière en train de prospecter pour ouvrir d'autres boutiques dans d'autres quartiers, parce que Londres, c'est connu, c'est des histoires de quartiers. Et pour développer la notoriété d'une marque, il faut avoir au moins 3-4 points de présence physique plus les grands magasins où vous avez le trafic pour la rendre visible. Donc c'est exactement la stratégie qu'on est en train d'adopter pour développer la marque. Et puis il y a des pays européens sur lesquels nous ne sommes pas, comme la Scandinavie. Mmh. je pense qu'ici, il y a un potentiel d'aller vendre des pulls en cachemire et parler d'une belle marque française à tous ces clients internationaux. C'est aussi faire vibrer sur ce qui fait l'essence de la maison, c'est-à-dire l'élégance à la française, un style très particulier finalement. Épuré, mais avec des détails que les gens qui ont l'œil savent remarquer. Et puis une très belle qualité indéniablement.
Justement, vous l'avez dit, un des axes depuis 2 ans et demi, c'était de travailler la silhouette, de travailler l'image. Vous me le disiez en préparation, mais l'idée, c'est de toucher une clientèle plus jeune sans perdre la clientèle historique de la marque. Dans ce travail-là, vous en êtes où? J'ai sous les yeux le dernier catalogue. On voit que c'est une femme urbaine, moderne, et les dernières campagnes étaient dans cet ordre-là, en apportant de la fraîcheur dans la manière de communiquer. Vous voulez donner quelle image, quel discours vous avez pour Éric Bompard?
Alors effectivement, on pense qu'on peut toucher une clientèle plus large et plus jeune. On veut surtout être, à travers ce catalogue et à travers les photos et la manière dont on fait du styling de nos produits, montrer qu'un produit Bompard, en fait, c'est un produit que vous pouvez porter à toutes les occasions. Vous pouvez le porter effectivement dans un environnement urbain. Quand on écoute nos clients, ils le mettent sous une veste de manière assez formelle quand ils travaillent, mais ils peuvent le porter le week-end, vous pouvez le porter quand vous faites vos loisirs, vous pouvez même le porter quand vous faites du sport, vous pouvez aller au ski avec votre pull ou votre accessoire Bompard. Donc on veut porter la marque plus loin et surprendre dans la manière dont on peut aussi associer les couleurs. Éric Bompard, c'est aussi le roi de la couleur. On a plus de 2000 couleurs qui ont été développées par la marque et ce sont nos couleurs propriétaires, on développe nos propres couleurs. Donc, suggérer à nos clients 1000 manières de s'habiller avec un pull, une étole ou des accessoires. Aujourd'hui, on développe vraiment aussi la silhouette entière. Le bas, les pantalons, les jupes, les manteaux. Et c'est ce qui plaît à nos clients. Donc, on va continuer dans ce sens.
Oui, vous voyez qu'il y a une bonne réponse sur ces produits additionnels au pull cachemire historique de la maison.
Exactement. Et puis, on travaille aussi pour suggérer, pour s'adapter aussi aux usages des clients. Il n'y a pas que le 100% cachemire. On travaille d'autres matières naturelles mélangées à du cachemire ou seules. Un pull en lin et cachemire l'été, c'est très agréable. C'est la chaleur qu'il faut, mais la fraîcheur du lin et puis la main aussi du lin. Donc, on travaille énormément et notre studio est très expert dans toutes ces techniques et toutes ces matières.
Justement, les matières, ce sont que des matières naturelles chez vous. Un des éléments, semble-t-il, de différenciation sur un marché du textile, de l'habillement très concurrentiel, c'est justement de commencer à porter des matières naturelles et des matières certifiées. Je crois que là-dessus, vous faites un travail depuis très longtemps, mais que ça s'est accéléré. On avait parlé d'une certification Made in Green avec Ecotex. Qu'est-ce que c'est? Quel engagement ça implique de la part de l'entreprise pour aller dans ce chemin-là?
Alors déjà, Éric Bompard lui-même était déjà très innovant puisqu'il y a bientôt 40 ans, il a créé un partenariat avec un fournisseur avec lequel on travaille toujours, qui nous permet encore aujourd'hui d'avoir une traçabilité jusqu'à l'origine de la fibre, c'est-à-dire les fermes dans lesquelles sont élevées les chèvres dont on brosse, je rappelle, le cou pour retirer la fibre de cachemire. Et donc ça, c'est important et ça s'appelle aujourd'hui la traçabilité et on demande ça à toutes les marques. Nous, on est déjà présents sur ce sujet depuis très longtemps. On n'a pas attendu en gros que ce sujet RSE ou ESG soit à la mode pour le faire. Sont suivis évidemment des certifications internationales pour garantir que c'était pas seulement notre parole, mais que voilà, on a des audits, on a tout ce qu'il faut qui va avec. Donc nos produits sont à 99% certifiés Made in Green, ce qui est exceptionnel. Made in Green, ça garantit non seulement que le produit respecte l'environnement dans sa fabrication, que les conditions sociales et environnementales dans lesquelles il est fabriqué sont respectueuses de normes très strictes, et garantit toute cette traçabilité. Et puis, on essaie de travailler le sujet, je dirais, plus largement, en continuant à, voilà, à avoir cette exigence. Donc, la transformation que ça demande à l'entreprise, c'est dès qu'on développe quelque chose, on se pose la question de est-ce que ça respecte bien des normes environnementales et est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce respect et puis la transparence qu'on va donner à nos clients.
Par rapport à ça, la période actuelle avec des problèmes de sourcing peut-être pas, mais en tout cas de logistique depuis l'Asie, vous l'aviez dit, c'est la zone de production est sur la Mongolie intérieure, donc au nord de la Chine. C'est la situation là-bas vous permet d'avoir la matière, et le réchauffement climatique a priori a un impact sur la capacité de production des chèvres aussi. Est-ce que ça, ce sont des interrogations pour la filière cachemire importante?
Alors déjà, un point important, c'est que nous utilisons le meilleur grade de qualité. Qui dit meilleur grade de qualité dit justement attention particulière à la manière dont les animaux sont élevés, dont la matière est traitée. Elle reste rare, c'est une matière précieuse, mais nous avons construit, je vous disais, ce partenariat avec nos fournisseurs pour pouvoir en disposer, d'une production qui nous est réservée. Réchauffement climatique, c'est pas tant le réchauffement climatique qui nous pose potentiellement problème, c'est effectivement des potentielles difficultés d'acheminement. Aujourd'hui, nous, on n'en a pas eu. C'est aussi la force d'un partenariat fort et d'un respect de nos partenaires qui fait que nos produits sont acheminés, on n'a eu aucun problème. Mais on reste très vigilant pour pouvoir faire face à des difficultés de transport potentiellement. On a été très réactif pour on a commencé à faire des transports en train. On a été très vigilant quand la guerre en Ukraine s'est déclarée pour pouvoir assurer que nos clients partout dans le monde puissent avoir quand même nos produits. Aujourd'hui, non, on n'a pas de problème d'acheminement.
Oui. Et par contre, vous me disiez que vous commencez à regarder pour rapprocher la production, en tout cas le tricotage, j'imagine, la manière dont sont finis les pulls. Vous souhaitez être sur de l'Europe, peut-être même de la France.
Exactement. Comme vous disiez, la matière, de toute façon, viendra toujours de cette région. Au 19e siècle, les Écossais, mais même les Français, ont essayé d'importer des chèvres. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que c'est un animal, cet animal déjà endémique de cette région, cette chèvre Capraïska, a besoin de conditions climatiques extrêmes pour développer ce duvet. L'été, il fait extrêmement chaud dans ces steppes mongoles et même au nord de la Chine, en Mongolie intérieure, et l'hiver extrêmement froid, et elle développe ce duvet qu'on récolte une fois par an. Toutefois, donc aujourd'hui, jusqu'à présent, on a souhaité rester près de la source de la matière, mais on se dit qu'on a envie aussi de soutenir la filière France, et il y a des savoir-faire en fait spécifiques en France dans le tricotage qui sont en train de renaître et qu'on a envie de soutenir, à la fois pour soutenir la filière, offrir à nos clients la possibilité d'acheter aussi un produit qui est fabriqué en France, même si la matière vient de l'origine, c'est-à-dire de la Mongolie intérieure. Et donc aujourd'hui, on va sortir notre première capsule avec une volonté vraiment d'étendre à l'Europe la fabrication, une première capsule fabriquée à Roanne dans une usine qui utilise des machines dites intégrales, donc un savoir-faire spécifique français d'utilisation de ces machines.
Ça va être sur quelle pièce? C'est une production, j'imagine que la première production est peut-être pas énorme, mais en tout cas vous permet de tester le savoir-faire et peut-être la réaction du marché.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est un début pour cette saison. Parce que ben il y a des temps de développement et d'adaptation aussi, donc on commence toujours comme ça quand on commence avec un nouveau fournisseur, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis comme je vous disais, c'est une filière qui est en train de se reconstruire, des savoir-faire qui se sont perdus, des mains, des usines qui ont fermé aussi, et à mesure où on va croître la production, il faudra acheter de nouvelles machines, il faudra former de nouvelles remailleuses ou remailleurs, des programmateurs pour fabriquer et tricoter, donc on va y aller très progressivement, mais effectivement aujourd'hui ça va faire 2% de la collection, voilà, ça va être tout petit, mais visible et présent, et on est très confiant que nos clients seront sensibles au fait de pouvoir acheter quelque chose qui utilise des mains françaises.
Et ce sont quel type de produits? Donc ce sera sur du pull, j'imagine?
Des bonnets, des écharpes.
D'accord.
Principalement, on a aussi développé des pulls. En fait, le principe de la machine intégrale, c'est que c'est ça vous donne un rendu sans couture.
D'accord.
Donc ça s'adresse à certaines pièces. Donc on a sélectionné les pièces qui étaient les plus éligibles, et puis progressivement on élargira très clairement.
D'accord. Et sur la production européenne, ça peut être sur quel type de produit?
Sur la production européenne, ça peut être soit des produits purement tricotés cachemire uniquement, mais on est en train de regarder au Portugal la possibilité d'associer des matières techniques à du cachemire pour pouvoir avoir d'autres usages, et notamment je vous parlais des usages sportifs.
Ouais.
Après ça dépend vraiment. La maille, c'est très geek, comme on dit, c'est extrêmement technique.
Oui.
C'est vraiment l'association de la longueur de votre fibre, le micronage de votre fil, le nombre d'aiguilles, la dimension des aiguilles, et puis il y a une partie du travail en machine, mais aussi une partie du travail à la main et de finition à la main. Donc c'est tous ces savoir-faire réunis qu'il faut qu'on retrouve, et on s'adaptera, mais il y a vraiment de quoi faire en France, et de plus en plus d'entrepreneurs et de gens très courageux pour recréer cette filière, et on y croit beaucoup, et la BPI aussi, nos actionnaires aussi, et on a très envie d'aller plus loin.
Je vous sens très motivé sur ce sujet. J'ai l'impression que ça doit bien motiver aussi les équipes d'avancer sur ces thématiques-là.
Tout le monde est très motivé, et puis c'est chouette de voir renaître, ce travail de la main et ces métiers qui était parti loin, et il n'y a aucune raison, on a des vrais savoir-faire en France.
Oui, tout à fait. Et vous le disiez tout à l'heure, mais Bompard à cette histoire de relation avec le client français, c'est sur la matière, sur le produit qui dure, sur la matière qui est costaud, bien que le toucher soit exceptionnel. La seconde main, dont beaucoup de marques prennent le sujet en main, justement. Vous le regardez, ce sujet de la seconde main, parce que pour Bompard, ça semble être un élément assez presque naturel.
Alors, on regarde bien sûr la seconde main, ou en tout cas toutes les manières de continuer le cycle du produit. En fait, on a constaté aussi que nos clients sont tellement attachés à leurs produits. Moi, j'ai des gens qui me disent « Oh, je me souviens, il y a 20 ans, d'avoir acheté un pull vert à Strasbourg, et je l'ai toujours. » Et ils savent exactement où ils ont acheté leur pull. Donc ça, c'est assez... vraiment unique chez Éric Bompard, et comme vous disiez, c'est costaud, et le produit dure si vous en prenez soin normalement, et donc les gens les gardent. En fait, ils ont pas forcément envie de les vendre en seconde main, ils les gardent, se les transmettent dans la famille, de génération en génération. Et donc on a plutôt pensé, et ça c'est l'initiative que nous avons lancée en février dernier, on a plutôt pensé à dire ok, comment on peut offrir à nos clients la possibilité de donner une seconde vie à leurs produits. C'est un programme qu'on a appelé Longue Vie du Cachemire, où on offre la possibilité de réparer les produits. Donc, on a des mains dans nos équipes et ce sont vraiment des mains expertes et exceptionnelles qui font du remaillage ou du racoutrage. Alors, le remaillage, vraiment, vous prenez maille à maille pour reprendre une manche qui serait décousue. Et puis, le racoutrage, c'est vous avez un accident de la vie sur votre pull, un accroc. Et là, il faut voilà, remplir, je dirais, le trou et les gamants sans que ça se voie. Et c'est vraiment des mains très expertes. Et donc, on a une équipe qui est dédiée à ça pour offrir ça à nos, cette possibilité à nos clients, ce qui fait que bah, votre pull il reprend une vie, quoi. Et c'est pas parce qu'il a un trou et que vous le jetez ou que vous le revendez, vous le gardez. Et voilà. Et puis on a réfléchi en se disant mais on a certainement des clients qui veulent plus de leur pull. On leur offre aujourd'hui la possibilité de nous rendre ce pull, d'avoir un bon d'achat en échange. Ce pull, on le nettoie et on le donne à l'atelier Les Résilientes d'Emmaüs pour recréer, faire de la recréation à partir de nos pulls. Et là, à partir du mois de novembre, nous allons commencer à vendre dans nos boutiques ces produits qui ont été recréés par des mains, voilà, des ateliers des Résilientes, qui est un atelier de réinsertion d'hommes et de femmes qui ont ce savoir-faire de la couture pour créer des objets qui seront, vous verrez, gais, ludiques, frais, et des petits objets dont l'intégralité de la vente sert à financer la production. On ne fait pas du tout de bénéfices dessus, c'est pas le but, c'est vraiment de soutenir une initiative de nos produits peuvent avoir même jusqu'à une dernière vie. Et là, il n'y a plus de déchets, en fait. Et vous le disiez, la matière est très, très belle. Il faut pouvoir la sublimer jusqu'au bout. Elle peut vivre encore longtemps.
Donc, ce seront à chaque fois des pièces uniques, finalement.
Exactement. Ce seront des pièces uniques. Alors, on a défini la manière de composer d'associer les couleurs pour que ça reste élégant, comme tout ce qu'on fait. Donc, rien n'est livré au hasard. Et on a vraiment travaillé tous les détails avec l'équipe studio de notre côté et puis l'équipe studio des Résilientes. Mais effectivement, chaque pièce sera unique.
On voit que vous travaillez à la fois le style de Bompard, mais surtout vous l'emmenez dans une transformation RSE dont il y avait des racines, mais là, en allant avec Emmaüs, en travaillant sur du Made in France, vous avez une approche un peu plus large encore de la responsabilité sociale et environnementale. Vous, l'objectif à moyen terme de l'entreprise, pas juste commerciale, mais de l'entreprise, Bompard doit être quel type d'entreprise dans 3 à 5 ans?
Alors, quand on est un référent, parce que c'est comme ça que nos clients nous voient, quand on est un référent du Cachemire avant toute chose et de la maille, on se doit d'être exemplaire aussi sur ces sujets, de montrer la voie avec nos moyens. Tout ce qu'on fait n'est pas parfait, mais d'y aller par vrai pas et parti pris. Comme vous disiez, il y a l'aspect sourcing. Donc on travaille toutes les dimensions. Notre vision, c'est d'être capable d'offrir à nos clients des produits utiles qui durent et dans des quantités raisonnables. D'apporter sur cette planète des produits dans des quantités raisonnables et qui ne surcharge pas, je dirais, l'environnement de choses inutiles. En RSE, c'est le sourcing, c'est toutes les actions aussi que l'on fait à petits pas, mais autour de tous les consommables, l'électricité. Vous voyez, dès qu'a été annoncé le plan de sobriété on est parmi les rares, je pense. Nous avons décidé d'éteindre systématiquement toutes les lumières de notre vitrine à la fermeture. Je pense que vous vous baladez dans Paris comme moi à des heures un peu plus nocturnes. C'est pas du tout le cas. Ça fait partie. Vous voyez, tout ça, ça paraît rien. C'est des sommes de petits pas, mais c'est aussi montrer l'exemple sur ce qui est utile. Quand nous avons refait nos bureaux, on a fait en sorte que tous les bureaux soient des bureaux seconde main, des matières recyclées. Donc dès qu'on le peut, on a ce réflexe. On a beaucoup de réflexions aujourd'hui autour du packaging. Nous avons éliminé le papier de soie pour le remplacer par des pochons en coton recyclé. C'est une somme de plein d'actions. Et puis, on a envie de pouvoir montrer aussi la voie par des initiatives aussi comme l'upcycling et soutenir. Ce n'est pas que environnemental, ce n'est pas que le produit et la matière, c'est aussi soutenir des gens qui apprennent un métier. Et nos clients, ils sont très sensibles, en fait. Tout ça, ça résonne avec aussi des valeurs, des centres d'intérêt de nos clients. On n'achète pas qu'un produit, on achète une éthique, des valeurs, des choses qui vont autour, et de plus en plus les clients, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, veulent du sens derrière ce qui est fait, et nous on essaie de donner du sens à ce qu'on fait systématiquement.
Merci Barbara Vachin.
Merci.
C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.